Bonjour à tous. Alors simplement quelques mots pour me présenter. Je suis alsacien, barinois pour être précis. J'ai le plaisir, le privilège de servir le Seigneur ici à Wittenheim depuis 2 ans et demi avec mon épouse et mes 2 enfants. Voilà, mon épouse n'a pas pu se joindre avec nous ce matin. Notre petit dernier Paul est malade. Voilà, donc on ne voulait pas contaminer l'ensemble de la salle. Voilà, avant je bâtissais non pas pour le Seigneur, mais je bâtissais concrètement dans la pierre. J'ai une formation d'architecte. Pendant 10 années, j'ai exercé sur Strasbourg. Voilà, et puis le Seigneur m'a permis de me former à l'Institut biblique où j'ai rencontré Étienne. Et puis voilà, me voici heureux, tout privilégié de pouvoir partager ce temps ensemble autour de la parole. Alors c'est vrai qu'on ne se connaît pas spécifiquement. Mais c'est un privilège de savoir que Dieu nous connaît, personnellement, individuellement, et qu'il nous a laissé sa parole pour nous alimenter aussi ce matin. Comme on l'a vu cette semaine passée, ben c'était le slogan « S'équiper pour servir ». C'est toute la question tu peux avancer, de servir efficacement notre Seigneur. On l'a chanté tout à l'heure, Dieu a pourvu au salut de notre âme, au salut de notre éternité. Mais Dieu a pensé, Dieu a imaginé, Dieu a souhaité nous associer à la réalisation de son plan pour l'humanité. Nous voici aujourd'hui ouvriers avec Dieu par sa grâce. Et ce n'est pas évident de le concevoir, de le réaliser. Mais chacun d'entre nous, sans distinction de personne, chacun a sa place et sa fonction dans cette mise en œuvre, et dont la finalité, c'est la gloire de Dieu, la gloire de celui qui nous a rachetés à un prix exceptionnel, et on se l'est rappelé tout à l'heure autour de ce repas. Alors c'est vrai, l'intégralité de la parole de Dieu nous encourage à servir, elle nous équipe, chacun. Mais le petit texte que je voudrais parcourir avec nous ce matin est une parole d'encouragement à servir notre Seigneur. Un texte qui a été rédigé par l'apôtre Paul, qui est déjà en prison. Il est sur la fin de sa vie. Et c'est un texte qui s'adresse à un homme qui lui tenait particulièrement à cœur, Timothée. Alors on peut peut-être avancer là. Ces deux hommes qui ont roulé pas mal leur bosse ensemble. Ils ont voyagé un paquet d'années ensemble, sur les routes, dans des voyages missionnaires. Et pour ceux qui ont fait des voyages missionnaires, vous savez que ça forme. Entre Éphèse, Corinthe, Athènes, Jérusalem. Ils ont participé ensemble à des campagnes d'évangélisation. Ils ont servi ensemble dans des entretiens, dans des enseignements. Et tout ce qui entoure ce type d'événement. Ils ont vu ensemble des conversions, des baptêmes. Ils ont participé à des implantations d'églises. Ils ont servi en mettant en place des responsables. Ils ont vécu différents temps forts de l'Église, comme nous pouvons en vivre un ce matin. Mais bien évidemment, ils ont aussi vécu des oppositions, des difficultés, des questionnements, des rejets, des arrestations. Ils ont dû se réadapter en allant dans une autre Église. Ils ont dû quitter des frères et sœurs pour aller plus loin. On peut vraiment dire qu'ils ont servi ensemble, étaient ouvriers dans l'œuvre de Dieu. Vous imaginez ce que Timothée, plus jeune que Paul, a vécu à côté d'un apôtre Paul. Ils étaient ensemble au service, rien que par cette expérience. C'est difficile d'imaginer, hein. Et Timothée, dans le texte qui nous est rapporté, semble être dans une situation un peu plus compliquée, de faiblesse spirituelle, on pourrait dire. Est-ce qu'il est lassé? Est-ce qu'il est rempli de doutes? Est-ce qu'il remet en cause ses doutes, son service, ses dons, pardon, sa vocation? On ne sait pas. Mais c'est vrai que Paul a souhaité que nous avons 2 lettres personnelles adressées à Timothée pour l'encourager dans son service. Et je voudrais que nous puissions être encouragés dans notre service pour le Seigneur, dans ce que Paul nous a laissé au travers de son exhortation à Timothée. Servir Dieu est une chose, mais comment le faire en est une autre. Ni nos raisonnements, ni notre motivation ne suffisent à répondre à cet appel de servir le Seigneur. Alors je vous propose qu'on puisse ouvrir nos Bibles, pour ceux qui en ont une, on est dans 2 Timothée, dans la deuxième lettre de Timothée au chapitre 2. Voilà, c'est des textes qui sont peut-être connus, mais je voulais simplement nous arrêter sur les 7 premiers versets. 2 Timothée 2. « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Christ Jésus. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat en campagne qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir le fruit. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera l'intelligence en tout. » Je voudrais simplement qu'on nous incline dans la prière pour remettre. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour cette lettre personnelle que Paul a rédigée à Timothée et qui nous est aussi adressée à nous. Tu as souhaité qu'elle nous parvienne. À nous qui vivons en 2020, Seigneur, pour nous encourager, c'est vrai, dans notre service pour toi. Seigneur, fais-nous la grâce de comprendre ce que Paul veut aussi nous laisser. Amen. À travers ces phrases, on découvre que un véritable encouragement que Paul veut laisser, on est au bénéfice de la grâce, nous sommes appelés à être utiles à Christ. Gilles, si tu peux juste afficher cette diapo. Nous sommes au bénéfice de la grâce, nous sommes appelés à être utiles à Christ. Et pour cela, je voudrais relever avec vous 6 points, 6 éléments que nous pouvons découvrir dans ce texte pour un service utile à Christ. Pour un service utile à Christ, soyons enracinés dans la grâce. Le verset 1. « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Ici, Paul s'engage avec intention dans son influence auprès de Timothée. « Toi donc, mon enfant. » Paul rappelle ce lien fraternel, intime que j'ai évoqué tout à l'heure. Il est lié à son protégé, comme un modèle, comme un leader. Mais si Paul veut l'interpeller, ce n'est pas pour le ramener à soi, fais comme moi, mais pour l'encourager à être ce serviteur utile et confirmé avec une juste vision de Christ et de la grâce. Fortifie-toi, c'est un verbe à l'impératif, c'est un commandement que Paul laisse à Timothée. Il lui demande de se fortifier dans la grâce. La traduction Semeur traduit par « Puise tes forces dans la grâce ». Oui, on l'a évoqué, nous sommes sauvés par grâce, par ce don de Dieu, cette faveur, ce salut qui nous est acquis. Mais nous sommes aussi appelés à vivre par cette même grâce. Paul dira à l'église de Colosse, « Comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui. » Paul rappelle à Timothée toute l'importance de la grâce dans la vie d'un serviteur, d'un disciple de Jésus. C'est là où on trouve la force, là où on trouve notre source du service pour le Seigneur. Paul encourage Timothée à s'ancrer dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Qui est, pas qui était, pas qui sera, mais qui est bien présent aujourd'hui dans notre union avec Jésus-Christ. C'est l'œuvre de Jésus-Christ qui nous donne cette capacité, cette force d'accomplir le service auquel il nous appelle. Ce n'est pas dans nos forces, ce n'est pas dans nos capacités ou dans notre obéissance. Paul nous encourage à nous exposer continuellement, volontairement, à l'action de la grâce. C'est fondamental pour notre service. On veut mieux servir ? Alors enracinons-nous dans la grâce, dans l'œuvre de Jésus-Christ, dans ce don parfait. Il n'y a pas d'autre chemin. Peut-être que notre rôle, c'est d'encourager, comme Timothée, quelques autres qui sont autour de nous, qui sont fatigués, lassés d'être engagés. Regarde à la grâce, regarde à la croix, ressaisis-toi. Et pour cela, Paul va développer en utilisant des images, comme il sait bien le faire, la suite qui est ancrée dans cette grâce. Pour un service utile, deuxièmement, soyons témoins de la grâce. Vous l'avez vu au verset 2, ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Paul utilise l'image d'un enseignant, d'un intendant qui transmet à quelqu'un d'autre ce qu'il a reçu. Ce que tu as entendu de moi, transmets-le, confie-le. Paul encourage Timothée à faire de même. Ce que moi je t'ai transmis, transmets-le. Tout comme Jésus-Christ l'a fait avec ses disciples. Il a enseigné pour qu'ils aillent au-delà. C'est vrai que Dieu suscite des hommes fidèles chargés de transmettre cette bonne nouvelle, l'Évangile, le message de la grâce à nos contemporains, à la génération qui suit. C'est de notre responsabilité de transmettre, de passer le flambeau, de transmettre ce que nous avons reçu, de préparer la relève. Guide, accompagne, enseigne. Ce message de grâce que nous avons reçu doit être partagé, doit être propagé à d'autres qui soient capables, eux aussi, de passer le flambeau. Là, on a tout le champ lexical du discipulat. Ça s'inscrit dans ce grand mandat laissé par Dieu, par Jésus, à ses disciples en Matthieu, à l'effet de toutes les nations des disciples. Il est notre rôle d'être témoin de la grâce. Ce que nous avons reçu de Christ, l'Évangile, nous sommes exhortés à le transmettre comme un trésor. Confie-le, ne le garde pas pour toi. Ne garde pas pour toi ce que tu as reçu du Seigneur. J'imagine que vous avez déjà aussi tous réfléchi, comme peut-être moi j'ai eu l'occasion de le faire, à toutes ces personnes qui ont jalonné votre vie, votre parcours avec le Seigneur et que le Seigneur a utilisé pour que vos cœurs soient touchés, pour que vos cœurs soient façonnés par la grâce. Réfléchissez, prenez quelques secondes à imaginer toutes ces personnes que vous avez côtoyées par le passé et qui vous ont amené à être présents ce matin, à le servir. Et si certains avaient négligé cette passation de témoin. Et ce n'est pas simplement l'Évangile qui doit être partagé. C'est une transmission consciencieuse d'en former d'autres, d'investir dans la vie d'hommes et de femmes qui ont le potentiel, qui soient capables. Oui, mes amis, Dieu appelle dans le service à être des témoins. De l'Ancien Testament au Nouveau Testament, Dieu a jalonné l'histoire de l'humanité, l'histoire de Dieu avec les hommes, de témoins. Le peuple d'Israël a été témoin, devait être le témoin de l'œuvre de Dieu. Et nous sommes appelés à le partager plus loin. Il y a 4 générations qui sont évoquées dans ce passage. C'est l'extension, la propagation du message de l'Évangile passe par nos vies qui sont un témoignage à la gloire de Dieu. La question n'est donc pas « qu'est-ce que j'ai découvert l'année passée avec le Seigneur ?» Mais surtout, qu'est-ce qu'on en a fait? Est-ce qu'on l'a partagé? Est-ce qu'on l'a gardé pour soi? Est-ce qu'on a ce désir de le transmettre? Oui, on peut s'équiper pour mieux transmettre, peut-être de façon plus pertinente à notre monde. Mais fondamentalement, ce qui est important, c'est que tu sois témoin de ce que Dieu a fait pour toi, de ce que Dieu t'a montré, de ce que toi tu as appris avec le Seigneur. Ne gardons pas ce que nous découvrons quotidiennement dans notre marche avec lui. Dieu a suscité depuis des siècles des hommes qui ont partagé ce qu'ils ont découvert avec le Seigneur, ce qu'ils ont vécu, pour être un encouragement. Et toi, en fais-tu partie avec les dons qu'il te confie? Chaque génération peut être un modèle, une parole d'exhortation pour les autres. Jeune, as-tu demandé à un aîné de t'accompagner dans ta vie de disciple? Aîné, as-tu pris le soin peut-être de prendre sous ton aile un plus jeune, dans ses premiers pas de disciple? Je me rappellerai toujours, jeune ado, voilà, j'ai été amené à servir le Seigneur par ma trompette, je jouais la trompette à l'époque, enfin je joue toujours de temps en temps, Les grands-parents de ma future épouse m'ont encouragé par des petites attentions dans mon ministère, dans mon service, tout simple, de musicien. C'est pas grand-chose, mais ça m'a encouragé à servir le Seigneur. Ils ont été témoins de la grâce qu'ils ont reçue de leur Seigneur. Mais pour un service utile, le troisième point, c'est « Soyons prêts à renoncer pour la grâce ». Les versets 3 et 4, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » Paul emploie souvent cette image du soldat, ce vocabulaire militaire. Le chrétien, c'est comme un soldat en service actif pour le Seigneur, dans la mêlée, discipliné, efficace, comme un bon soldat dans le combat. Paul souligne plusieurs traits de cette image. Donc, durez la souffrance. Souffre avec moi. Paul rappelle à Timothée qu'il doit être prêt à souffrir, comme Paul lui-même est en train de souffrir pour le Seigneur. Dans notre service pour Dieu, pour le Seigneur, nous serons amenés à rencontrer de l'opposition, de la souffrance, des difficultés. Ce n'est pas un travail tranquille auquel nous sommes appelés. Et ce n'est pas quelque chose qui surprend Timothée. Timothée a vécu avec un temps avec Paul déjà des arrestations. Ils ont traversé des villes où ils ont été rejetés. Ils ont traversé des églises où c'était difficile. Notre fidélité à Christ, notre service pour Christ amènera à un moment donné à rencontrer des obstacles, des combats, des souffrances, des incertitudes, des questionnements. Et pour cela, Paul utilise cette image du légionnaire romain. Et Paul et Timothée ont dû en croiser à l'époque. Une armée de métiers, volontaires, engagés, pour 10 ans. Ils ont prêté serment, liés les soldats à leur chef, à Rome. La force physique était essentielle. Et quand ils n'étaient pas en train de préparer le combat, ils étaient mis à contribution pour bâtir des routes, pour déplacer des tonnes de gravats. Être un bon soldat romain, c'était en baver. 24 heures sur 24. Son corps, ses aptitudes, son temps, tout ce qu'il est appartenait à l'armée de Rome. On attend d'un soldat à ce qu'il risque sa vie sans s'interroger ni hésiter. D'où l'expression qu'emploie Paul. Il ne s'embarrasse pas des affaires de la vie. Un soldat romain, un homme de rang, n'était pas marié, ne pouvait pas l'être. Rien ne devait interférer dans la qualité de son service. Alors c'est vrai, après 10 ans, ils étaient bien payés. Peut-être ils avaient... Ils ne devaient pas avoir de cœur partagé. Ils devaient être détachés de tout engagement. Pour être un témoin efficace, nous devons être prêts à renoncer parfois. Qu'est-ce qui nous préoccupe? Qu'est-ce qui nous embarrasse à servir fidèlement le Seigneur? Quel est le poids que nous donnons aux affaires du monde? Pour Paul, il y a des choses qui affaiblissent notre service pour Dieu. Sachons les discerner. Sachons les mettre de côté. Et demandons à Dieu qu'il puisse nous montrer ce que nous devons laisser. Rappelez-vous, Jésus en chemin a rencontré ces 3 hommes qui voulaient le suivre, mais qui ont eu tous des choses encore à régler. Ils n'étaient pas prêts de le suivre. Ils n'étaient pas prêts de le servir, parce qu'ils avaient des choses encore qui le retenaient. Les soucis du siècle, la séduction des richesses, etc. Pouvons-nous dire comme Paul le dira dans Actes 20, « Je n'y attache aucune importance, je ne considère pas ma vie comme précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que le Seigneur m'a confié, annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Mon service pour le Seigneur peut m'appeler à renoncer à des choses qui m'en écartent. Pour plaire à celui qui nous a enrôlés. On a ce désir profond de plaire au Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Où est-ce qu'on veut plaire aux hommes? Mais pour servir, je dois être aussi fidèle à la grâce. C'est le verset 5. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Encore une troisième image du sportif que Paul affectionne. L'athlète, c'est celui qui est animé d'une grande force de détermination à gagner. Alors pour ceux qui côtoient des sportifs, ils ont la gagne, comme on dit. Ils sont compétiteurs, quel que soit d'ailleurs le sport. Ils ont un ego parfois un peu démesuré. Leur sport, la victoire. Dans la première lettre de Paul à Timothée, Paul avait encouragé Timothée à s'entraîner comme un athlète. Mais ici, il met l'athlète qui combat suivant les règles. Et c'est vrai, l'athlète grec et romain devait s'entraîner, bien sûr, comme on le fait aujourd'hui, pour participer. Mais il y avait déjà des règles très strictes pour la compétition, des règles à observer. Le moindre écartement, vous étiez disqualifié. Prenez une course, déjà à l'époque. Il y a une position de départ, il y a un couloir, les croche-pieds, les collisions intentionnelles sont interdites. L'équipement qui est autorisé, voilà, vous ne partez pas de la même façon, vous avez votre équipement sportif. Le régime aussi, ben voilà, vous suivez une alimentation, d'autant plus à l'époque. Et la transgression d'une de ces règles, etc., vous valait d'être disqualifié de la course dans laquelle vous étiez engagé. Et vous ne recevez pas cette couronne du vainqueur, bien évidemment. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Et dans notre service pour le Seigneur, c'est quoi les règles du service pour le Seigneur? On a un modèle, Jésus-Christ, serviteur du prochain, empreint d'humilité, d'intégrité, entre ses paroles et ses actes. Est-ce que ça, ce n'est pas une règle? Que ce qu'on prononce est intègre par rapport à ce qu'on fait, ce qu'on dit, ce qu'on est? Suivant les règles. Fidèle dans les disciplines spirituelles? C'est une question, hein? Discipline spirituelle, c'est la même souche que disciple, disciple du Seigneur. Est-ce que comme l'athlète, on s'impose une discipline à s'attacher à la parole de Dieu? Est-ce qu'on est prêt à être repris par ce que Dieu nous dit dans sa parole? Telle une loi? Telle une faveur, tel un aiguillage, tel des commandements. Dieu nous a donné un cadre. Est-ce que nous nous y conformons dans notre service? À Paul, cette liberté, cette fidélité, pardon, à ce message, lui a coûté sa liberté. Il a voulu être fidèle à l'Évangile et il a été emprisonné. Son amour pour Dieu, son amour pour le Seigneur lui a valu d'être radical et d'être resté droit, quitte à rester en prison. Être chrétien, ce n'est pas comme un loisir, un choix que l'on coche et puis c'est tout. Il y a une discipline, il y a des règles, il y a un cadre. L'athlète fournit aussi un effort contigu, particulier. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'il devient une grande star. Des mois et des mois d'entraînement, des années parfois, avec la victoire en objectif. En tant que disciples, nous voulons servir le Seigneur, mais nous devons aussi nous créer des habitudes. Courons pour plaire au Seigneur. Avec, en point de vue, cette ligne d'arrivée, la victoire, le triomphe. Mes amis, on est dans l'équipe des vainqueurs. On est dans l'équipe des vainqueurs. Cinquièmement, soyons travailleurs pour la grâce. Verset 6, le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Encore une image. Alors, c'est vrai qu'on est écarté aujourd'hui un peu de ce monde agricole, mais vous imaginez bien que le laboureur, au temps de Paul, n'a rien à voir avec l'agriculteur assis dans son tracteur, piloté par satellite, qui fait 15 sillons d'un coup. À l'époque de Paul, l'agriculture était un des secteurs d'économie le plus important et la main-d'œuvre était très importante. Beaucoup de monde dans les champs. C'était l'image que Paul et Timothée devaient voir en traversant de région en région. Du monde dans les champs qui travaillait sous le soleil. Souvent des esclaves. Très peu d'outillage. Ils ont dû travailler avec peine. Travailler dur, intensément. Fournir de grands efforts, s'en épuiser. Si un champ est laissé en friche, il ne produira que des mauvaises herbes. Le travail, ce n'est pas des mots qu'on aime beaucoup au XXIe siècle. Un laboureur s'attelle tôt à son travail, c'est exigeant. Il endure le chaud, le froid, le sol rocailleux, le sol meuble. Les saisons ne l'attendent pas, ça coûte. de pouvoir produire de la sueur de son front une semence. La grâce, elle a coûté à notre Seigneur. Suivre Christ, ça coûte, mes amis. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ici, Paul, par cette tâche ingrate du laboureur, il la compare à la vie du disciple. Du service pour Christ. Le laboureur qui peine. Sommes-nous prêts à mouiller notre chemise pour le Seigneur? Nous devons y travailler. Pour découvrir Christ, ça prend du temps. Ça prend peut-être des années parfois pour se former. C'est toute une vie. Si on veut se former dans un domaine, il faut peut-être se consacrer des samedis, peut-être des années, pour un service particulier que le Seigneur nous a mis à cœur. Mais on voit aussi que le laboureur a un fruit, une partie de la récolte, il y a une joie à servir le Seigneur, une récompense. Et c'est vrai, le cultivateur bénéficie de sa récolte. Et pour ceux qui servent le Seigneur, c'est vrai, ça coûte. Mais combien de joie nous avons aussi en retour. Quand on prépare un texte à partager, comme ce matin, je le fais devant vous, ça prend du temps. Et combien de joie de pouvoir voir les pierres précieuses, de voir ces promesses de Dieu, de voir ces encouragements, de voir la richesse, de voir combien c'est cohérent, combien nous avons un Dieu qui a tout pourvu. Ça coûte, mais on a les bénéfices. On goûte à ce service. Et enfin, sixième point, reconnaissons la grâce, sa grâce qui nous qualifie. La boucle est bouclée. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera l'intelligence en tout. Paul encourage Timothée à considérer ce que Paul lui a laissé. Sois ouvert, sois réceptif, choisis. Considère la grâce que tu as reçue, qui t'a accompagné jusqu'à là. Mon enfant, considère attentivement ce que je viens de t'écrire. Médite-le, réfléchis. Utilise ton intelligence, ta capacité à raisonner. Il y a notre part, mes amis, dans notre service pour Dieu. Mais c'est la grâce qui alimente ses motivations. C'est l'impératif. Comprends ce que je viens de te laisser. Et le Seigneur te donnera l'intelligence en tout. Quand je lis la parole de Dieu, est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis ouvert à ce que Dieu veut me montrer? Des vérités toutes simples. Est-ce que j'ai cette attitude de disciple de Jésus à vouloir me dire, Seigneur, j'ai envie de te servir, montre-moi comment. Il veut utiliser notre raisonnement. Qu'est-ce qui doit changer dans ma vie pour que le Seigneur puisse m'utiliser? Et Paul dit, le Seigneur donnera de l'intelligence en toutes choses, le Seigneur t'inspirera, le Seigneur te guidera, te donnera ce discernement dont tu as besoin. C'est Dieu qui te permettra de comprendre comment tu dois servir aujourd'hui. C'est lui qui te qualifie. C'est lui qui nous vient en aide pour assumer un ministère, un service pour lui. Alors est-ce qu'on le laisse agir au travers de nous? Est-ce que sa grâce nous alimente? Non pas sur mes forces, non pas sur ma capacité, mais sur ce que lui me donne. Est-ce que c'est lui qui me donne l'enthousiasme de le servir, de le placer en premier? Mes amis, la grâce, elle est partout, elle englobe tout. Plus nous puiserons en elle, plus l'Évangile produira en nous cette joie et ce service que nous sommes appelés à vivre pour le Seigneur. Je voudrais conclure. Nous sommes appelés chacun pour sa part à être utile à notre Seigneur Jésus-Christ, sur la base du bénéfice de la grâce. Il y a un seul héros, mes amis, Jésus-Christ. Et Paul, ici, nous a montré quelques décisions toutes concrètes que cela implique d'être engagé pour le Seigneur. Mais celui qui nous a enrôlés dans son service ne nous laisse pas démunis. On parle de travail, on parlait de renoncer, on parlait de s'attacher. Cette part active, qui est résolument engageante, découle de l'œuvre de la grâce de notre Seigneur. Alors qu'attendons-nous pour servir là où le Seigneur nous appelle, que ce soit ici à Mulhouse, que ce soit à Wittenheim, et de prendre notre part pour que ce message qui a transformé à jamais notre vie puisse toucher, impacter ceux et celles qui nous entourent. Et je voudrais simplement lire la suite, les deux prochains versets, qui est peut-être en conclusion, mais voilà, qui accompagne ce que Paul nous encourage. On est au verset 8 du chapitre 2 de 2 Timothée. « Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, issu de la descendance de David, selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Christ Jésus avec la gloire éternelle. » Vous voyez ça ? Souviens-toi pour que d'autres puissent obtenir le salut qui est en Christ Jésus. Paul encourage Timothée, Paul nous encourage à reprendre le flambeau, à avoir un cœur pour l'annonce de l'Évangile, d'être ce serviteur utile. Il est celui qui envoie, il est celui qui équipe, il est celui qui nous donne ce dont nous avons besoin de partager. Amen.